La langue française est quand même bizarre.
Douce France, chérie de mon enfance.
Pourquoi dit-on un tabouret?
Bonjour et bienvenue sur RAB, Radio Alliance Brisbane, pour le troisième épisode de ce podcast. Les scripts enrichis de ce podcast et un certain nombre de documents d'accompagnement sont disponibles dans un blog sur le site my.afbrisbane.com. C'est en musique que nous allons vous accompagner pour une bonne partie de cette émission. En effet, reflet de l'actualité de Brisbane en Australie, d'où nous diffusons ce podcast, nous consacrerons une partie de cette émission à Charles Gounod, compositeur français du 19e siècle. Gounod est connu pour son opéra, Faust, mais c'est à son Roméo et Juliette que nous nous intéresserons. Roméo et Juliette sera au programme de Opera Queensland du 13 au 27 mai pour 6 représentations. L'Alliance française de Brisbane et Opera Queensland ont collaboré sur un programme d'études destiné aux élèves des écoles du secondaire dans le Queensland. C'est aussi à eux que nous nous adresserons alors. En musique toujours, mais dans un style très différent, nous consacrerons un chapitre de notre émission à Françoise Breux. Françoise Breux est une chanteuse reconnue sur la scène française, où elle a imposé son interprétation de textes et une musique très personnelle. Françoise était en concert à Brisbane le 2 mai, nous nous sommes entretenus avec elle. Nous vous proposerons aussi une page cinéma consacrée au film de Michael Haneke, Caché, que les spectateurs de Brisbane auront la chance de pouvoir découvrir à partir du 11 mai au cinéma Dendy. Nous conclurons notre podcast par le deuxième épisode du Mort des Tiercerie, un feuilleton radiophonique enregistré par l'Alliance française du Manitoba au Canada. RAB symbolise à sa façon la vitalité du réseau des alliances françaises de par le monde et l'enthousiasme des francophiles et francophones qui le font vivre. Vous êtes maintenant 1344 abonnés à RAB et, pour ceux qui nous découvrent, nous diffusons ce podcast depuis l'Alliance française de Brisbane dans l'état du Queensland dans le nord de l'Australie. En ce début de mois de mai, nous entrons lentement dans l'automne. Les températures avoisinent toujours les 30 degrés et nous venons d'essuyer un bel orage tropical. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue sur RAB. Charles Gounod n'est certainement pas le compositeur français du 19e siècle le plus connu. Roméo et Juliette est moins joué que son Faust. C'est pourtant à l'affiche d'Opéra Queensland que nous retrouvons ce mois-ci cette tragédie shakespearienne. En 1873, Gounod est à Londres alors que la première de Roméo et Juliette est proposée à Paris. C'est dans ces termes qu'il en parle à son ami Bizet.
Londres, Tavistock Square, 25 janvier 1873. Cher Bizet, j'apprends que Roméo vient de faire son apparition devant le public de l'Opéra Comique et je croirais manquer à l'amitié que je te porte autant qu'à celle que tu m'as témoignée si je ne te remerciais de la part essentielle que tu as prise à cet accouchement, part à laquelle doit revenir, sans nul doute, bonne quantité du succès de l'œuvre et de la représentation. Je n'aime pas les ingrats, j'en connais beaucoup, et je serais désolé d'engrossir la liste douloureuse. Je sais que les qualités qui peuvent se trouver dans une œuvre ont une bien faible chance d'action sur le public si elles ne sont mises en évidence par les facultés de ceux qui sont chargés d'enseigner l'œuvre ou de l'interpréter. Je sais cela trop bien pour ne pas apprécier à toute sa valeur les services que m'ont rendus une intelligence aussi délicate et une obligeance aussi zélée que celle dont tu as fait preuve dans cette circonstance. On me montre ta lettre à l'instant. Il est 11h30. Le temps doit avoir été bien mauvais pour avoir ainsi retardé le courrier de Paris qui arrive d'ordinaire avant 9h. Merci, cher ami. de ton affectueux empressement. Je regrette qu'il ait devancé cette lettre, mais comme tu auras pu l'apprendre par Dulocle, à qui j'ai écrit hier à la hâte, mon désir était de t'écrire dès que j'aurai un moment pour le faire. Merci encore. Embrasse bien pour moi ta chère Geneviève et sois assuré des meilleurs sentiments de ton dévoué vieil ami. Charles Gounod. Post-scriptum, je t'enverrai sous peu quelques brins de ma musique qui t'intéresseront peut-être. Je l'espère du moins.
C'est la deuxième fois en 2 ans que Françoise Breu se produit en Australie. Alors, hasard des circonstances ou au véritable amour des antipodes, Françoise Breu nous a accordé un entretien qui répond entre autres à ces questions. Françoise, bonjour. Qu'est-ce qui vous amène en Australie? C'est pas un parcours forcément très, très typique pour des chanteurs français.
En fait, ça fait la deuxième fois que je viens ici. Donc, c'était il y a 2 ans la première fois. Mon disque a été distribué. C'est grâce à l'Angleterre en fait qu'on est arrivé jusqu'ici, parce qu'il avait été distribué en Angleterre, et puis le label l'a présenté à un label ici qui est intéressé. Voilà, c'est comme ça qu'on est arrivé ici.
On va parler de l'album que vous venez de sortir, Une saison volée. Il y a presque une démarcation entre cet album et les deux précédents. Il y a une énorme diversité dans cet album, une diversité des compositeurs, une diversité des textes, puis une diversité des langues aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la jeunesse de cet album-là?
Oui, c'est un disque qui a mis du temps à mûrir, oui. Peut-être mûrir, je ne sais pas, mais c'est peut-être pas le mot exact, mais en tout cas à sortir. Il y a eu 5 ans entre celui de 20 à 30 000 jours et celui-ci. Et donc ma démarche était comme sur les disques précédents, c'est que je suis juste interprète et je fais appel à plein d'auteurs différents. Sur le premier, c'était uniquement Dominica. Sur le deuxième, il y avait beaucoup de chansons de Dominica et d'autres auteurs que j'avais rencontrés, dont Jérôme Minière, Philippe Poirier, Philippe Catherine.
L'avenue en Australie, c'est la même démarche, c'est saisir une opportunité comme ça quand elle se présente.
Oui, de toute façon, c'est toujours intéressant d'aller jouer ailleurs que dans son pays pour voir quelles sont les réactions.
Vous menez ça même à l'extrême presque, parce que je vais regarder un petit peu vos concerts. Vous venez d'une tournée d'au moins une dizaine de dates en Allemagne, par exemple. Ça non plus, c'est pas très très typique.
J'ai l'impression que les Français sont assez bien lotis, déjà très bien aidés par tout ce réseau d'alliances françaises, d'instituts français, tout ça, qui aide à faire connaître la musique française à l'étranger. Et j'ai pas l'impression, les groupes anglo-saxons, tout ça, c'est des gens qui ont l'occasion de tourner dans le monde, mais d'autres pays européens, je sais pas, les Espagnols, les Allemands, j'ai l'impression qu'ils ont moins cette chance-là.
Est-ce que vous abordez les textes en langue autre que le français, de façon différente?
C'est d'abord une histoire de musique, de musicalité, de la langue aussi. Je suis pas spécialement douée pour les langues, mais c'est des langues que je trouve très belles, très très chaudes et donc en fait. C'est vrai qu'au départ, c'est pas tellement une question de sens. Évidemment, je vais pas chanter quelque chose dont je suis pas d'accord avec ce que la chanson raconte, mais je suis tout à fait en accord avec la musique et la mélodie. Donc, l'histoire me plaît et je la chante
On vous voit de moins en moins en fait, dans les crédits des albums. Sur votre premier album éponyme, on vous voyait pas mal. Sur le deuxième, 20 à 30 000 jours, on vous voyait encore. Là, sur le dernier, je crois que vous n'apparaissez qu'une fois dans Kilomètre 83. Est-ce que c'est parce que les autres font du assez bon boulot et puis ça vous va bien, ou c'est bon, on a presque l'impression que vous acceptez ce rôle d'interprète et puis
Oui, mais c'est un rôle d'interprète, mais je suis pas seulement déjà dans le choix des chansons, c'est pour moi c'est un travail qui est quand même énorme de choix de chansons. Ensuite le travail se fait avec les musiciens tous ensemble quand on travaille en studio sur les arrangements. Chacun amène ses idées et on est là à dire ce qui va, ce qu'on aimerait. Donc voilà, le travail se fait là aussi à ce moment-là, bien que je ne sois pas musicienne et que parfois c'est vrai que c'est très difficile d'exprimer ce qu'on aimerait dans le fantasme avoir et les idées qu'on a. Parfois c'est vrai que c'est difficile, mais le travail est là aussi. Donc moi, ce rôle-là pour l'instant me convenait. Bon, maintenant j'ai envie un peu de changer ma méthode de travail parce que ça fera 10 ans l'année prochaine que je fais ce métier-là, que je pensais pas que j'en ferais un métier. Donc j'ai envie de me mettre à l'écriture pour voir ce que c'est encore plus. J'ai envie. C'est pas forcément que j'ai des choses à dire, à revendiquer, tout ça. C'est vraiment voir ce que c'est l'écriture d'une chanson.
Est-ce que vous allez chanter le kilomètre 83 ce soir? Et est-ce que ça vaut le coup de chanter le kilomètre 83 en Australie, ou est-ce qu'il faut chanter le kilomètre 830 en Australie?
C'est vrai que 83, c'est pas beaucoup. Mais j'ai l'impression que les... Je sais pas si les Australiens font beaucoup, beaucoup de kilomètres en voiture, ou s'ils restent dans les parties où il y a toutes les villes, de Brisbane à Melbourne jusqu'à Adélaïde. Puis très peu vont jusqu'à Perth... En train, peut-être.
Déjà, si vous allez de Brisbane à Adelaide, ça va vous occuper quelques kilomètres, je pense. Bien, Françoise, merci beaucoup pour cet entretien.
Merci à vous. Sous la roche, pendant l'averse, que la route était longue, pour finir dans tes bras, finir à la renverse, au kilomètre 83. Oh là, le temps m'inquiète, il ne passe plus. Où sont tes bras? Je les cherche. Des bâtisseurs pressés, mieux vaut vite s'en aller à la renverse. Il n'y aura personne et tu me berceras. Et là, dessous la veste,
Quel est votre passe-temps favori ?
La lecture, ce vice impuni.
Quel est votre principal défaut ?
Il y en a tellement que je ne sais par lequel commencer. Il y en a trop pour pouvoir les citer tous.
Quelle est votre principale qualité ?
La tolérance.
Quel don de la nature souhaiteriez-vous avoir ?
Guérir instantanément.
Quel est votre héros de la vie réelle ?
Mais il y en a beaucoup, car je ne crois plus à mon âge à l'identification à un seul héros. Cela va des héros de mon enfance, obligés, comme saint François d'Assise, à des héros modestes, inconnus, qui ont fait le bon choix dans des circonstances difficiles et sans gloire.
Quel est votre héros de fiction ?
Alors la fiction, chacun a la sienne. Et il me semble que les héros de fiction sont réservés à un âge plus tendre. Vous devriez poser la question à mon fils Alexandre, 5 ans.
À part vous, qui souhaiteriez-vous être ?
Ce que je suis en mieux.
Quel est votre livre de chevet actuellement ?
Alors, je viens de finir de relire hier soir Moby Dick de Herman Melville.
Quel est votre principal trait de caractère ?
D'autres que moi le définiraient mieux. Je crois qu'il tient à mon nom, Desquette, qui veut dire, en patois béarnais, dur à cuire.
Qui êtes-vous ?
Alors, je suis François Desquette, 56 ans, marié, père de 3 enfants et actuellement ambassadeur de France en Australie.
Merci beaucoup.
On nous envoie les vues de la maison.
Vous avez dû rester là un bon moment.
La cassette fait plus de 2 heures.
T'as pas une idée, toi, qui pourrait s'amuser à ça ?
Je t'en ai encore quelqu'un ?
Oui. Ouvre, merde ! Montrez-vous, espèce de lâche !
C'est un jeu, c'est ça ?
Pourquoi avez-vous si peur, monsieur ?
En ce mois de mai sort au cinéma Le Dandy, le dernier film de Michael Haneke, Caché. Daniel Auteuil y joue le rôle d'un présentateur d'une émission littéraire, Julienne Binoche et sa femme. Ils vivent à Paris une vie de bobo, bourgeois bohème assez tranquille. Leur quiétude bourgeoise est cependant bouleversée lorsqu'ils reçoivent une cassette vidéo filmée par un inconnu qui visiblement les surveille. Bientôt, les envois se multiplient et sont accompagnés de dessins à la fois symboliques et violents. Cette dérangeante surveillance affecte Georges, Daniel Auteuil, dans sa vie familiale et professionnelle. Le passé de Georges, sa responsabilité dans le sombre destin d'un jeune Algérien que ses parents hébergeaient en 1961, refont surface. Georges, s'enferme dans le refoulement de cet épisode. Grâce à une remarquable cinématographie, il n'est pas donné à tout le monde d'entamer un film sur un plan fixe de 3 minutes. Haneke parvient à instaurer un climat lourd de suspicion dans lequel le spectateur est rapidement absorbé. La manipulation est portée à l'écran où l'on ne distingue pas immédiatement la nature des images projetées. S'agit-il du film ou d'images de vidéosurveillance imbriquées ? Cette profondeur est aussi symboliquement la profondeur des champs dans la rue dans laquelle habite le couple, rue des Iris, la bien nommée, ou encore dans le salon où défilent en arrière-plan, sur un écran de télévision, des images de conflit. La lecture du film peut être multiple, de la culpabilité refoulée d'un individu à celle d'une nation tout entière, un demi-siècle après la guerre d'Algérie et les événements d'octobre 1961 à Paris. Pour Cacher, Michael Haneke a reçu le prix de la meilleure mise en scène au Festival de Cannes en 2005.
La pièce que vous allez entendre vous est présentée par l'Alliance française du Manitoba en collaboration avec le studio d'Acapo.
Le mort des tiercerés.
Un mystère radiophonique destiné aux apprenants francophones.
Résumé de l'épisode précédent. L'inspecteur Stéphane Blot s'intéresse de près au meurtre d'un gars de la Haute à Saint-Georges-de-Goissan. Son supérieur lui a présenté l'équipe avec qui il travaillerait, l'inspecteur Michel Claverie et l'archiviste Paul Patte-de-Loup. Rendez-vous demain à 14h.
Le rapport de Michel Claverie. Rapport de police instruit le 12 janvier 1925 par l'inspecteur Michel Claverie suite à la mort de Monsieur Jacques de Villeray. Cause du décès,
empoisonnement. Le 12 janvier 1925, centre d'appel de la police française est informé du décès de M. Jacques de Villeray par Mme de Villeray. Le constat du crime est réalisé par l'inspecteur Michel Claverie, auteur du présent rapport. Je me rends aussitôt sur le lieu du crime. Il s'agit du domicile conjugal, le manoir des Tiercerie en Gatine, 1 avenue du recteur Pinault à Saint-Georges-de-Noigné. Je prends note du décès à 11h45. Le corps est transporté à la morgue de l'hôpital de la Salpêtrière où il est assigné au médecin légiste, le docteur Ali Kui, pour une autopsie. Cette dernière révèle que le défunt a absorbé un liquide, un mélange de soude NaOH et de tétradoxine TTX, c'est-à-dire de l'arsenic. La mort a été attribuée à l'effet de la soude sur les poumons. La solution est à l'origine d'une mort par asphyxie qui semble avoir été lente et douloureuse. Le mélange a ensuite perforé l'œsophage de la victime, et ce, en raison des effets de l'arsenic. Je note que le médecin légiste a été incapable de déterminer avec exactitude l'heure du crime. J'ai trouvé sur le lieu du crime plusieurs indices. L'indice numéro 1 est une montre grise de marque Swatch, modèle 1924, bracelet cassé, retrouvée près du corps. L'heure indique 6h25. L'indice numéro 2 est retrouvé à côté de la montre. Il s'agit d'un couteau suisse dont la lame sensiblement grande est déployée. Après analyse, on ne révèle aucune tache de sang. L'indice numéro 3 est le dentier de la victime. Il est légèrement rongé sous l'effet post-mortem de l'arsenic. L'indice numéro 4 est la clé de la porte de la chambre de la tour nord retrouvée dans les poches de la victime. Il s'agit des clés du lieu du crime. L'indice numéro 5 est une coupe de champagne brisée. L'expertise montre qu'il s'agit bien de champagne mélangé à de l'arsenic et de la soude. L'indice numéro 6 et 6 bis sont une bouteille et une coupe de champagne retrouvées sur la cheminée, pleines et intactes, sans autres empreintes sur le verre que celle de M. de Villeray. Le dernier indice, l'indice numéro 7, représente des empreintes de pas. Il s'agit de deux empreintes différentes qu'il reste à identifier.
C'est la fin de cette émission. Prochain numéro de RAB le 12 juin, il y sera bien sûr question de football, avec la Coupe du Monde de football en Allemagne et les espoirs de l'équipe de France. À bientôt.